Bonjour à tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer par vous lire une recherche que nous avons faite à travers l'agenda de mère concernant les dates, des visions qu'elle a eues concernant certaines dates. Alors je vais commencer par 1981. Quand est-ce qu'on verra le bout? Elle répond, dans 100 ans. C'est venu comme cela, en passant 20 ans. Et c'est le 26 juillet 1961. L'an 2000, les Américains seront peut-être les premiers éveillés, c'est pour la prochaine centaine d'années. 14 juillet 1962. C'est en l'an 2000 que ça prendra une orientation claire. Tu, Satprem, seras encore là. 14 juillet 1962. Je suis en avant. Dans ma conscience, je suis déjà en l'an 2000. Alors je sais comment ce sera. C'est très intéressant. Le 16 février 1972. En 2012, agenda, dans 50 ans, ça aura beaucoup plus d'intérêt. Le 13 mars 1962, c'est la date 2012. Agenda, j'ai toujours 2012. Agenda, je t'ai, Satprem, donné rendez-vous dans 50 ans. J'étais très sérieuse. Je riais. Ce sera pour ceux qui s'intéressent au yoga de Sri Aurobindo. Ce sera le cadeau que je ferai à ceux qui m'ont aimé en m'en allant. Je n'en ai pas l'intention, le 13 mars 1962. Ce que je dis vraiment devient de plus en plus difficile. Peut-être que dans 50 ans, les gens comprendront. Le 12 juin 1962. Et là, on arrive à 2022. Dans 50 ans, toute la partie réceptive du monde sera comme englobée, pas englobée, absorbée par la puissance de la pensée de Sri Aurobindo. Alors je répète parce que 2022, c'est l'année prochaine. Dans 50 ans, toute la partie réceptive du monde sera comme englobée, pas englobée, absorbée par la puissance de la pensée de Sri Aurobindo. Le 16 février 1972. 2060. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. On a toujours l'impression d'une centaine d'années pour que ça ait son plein effet. Le 20 décembre 1961. 2062. Ceux qui viendront après dans 100 ans, dans 200 ans, ce sera très facile. Ils n'auront qu'à choisir. Ne plus appartenir au vieux système ou appartenir au nouveau. Mais maintenant, il y aura une nouvelle façon de s'adapter aux forces de la nature, un nouveau fonctionnement. À partir du moment où il s'est retiré, 1926, Sri Aurobindo, sa vie n'appartient plus au public. Et ce qu'il s'est passé, eh bien, ce sera intéressant dans une centaine d'années, pas maintenant. Et c'est le 18 août 1962. Et ceux qui viendront après, 2062, c'est le 13 février 1962. La dernière date, 2250, cette chose très peu esthétique de la transformation des organes, on n'y pense pas beaucoup et pourtant, c'est certainement ce qui produira en effet, ce qui se produira en premier longtemps avant la transformation de l'apparence. Satprem, Sri Aurobindo parle du remplacement par des chakras. Oui, Sri Aurobindo, il a dit 300 ans. Alors c'est le 6 octobre 1962. Voilà en ce qui concerne la vision que Mère avait eue concernant les dates dans le futur pour cette humanité. Alors aujourd'hui, je vais continuer à vous lire la tragédie de la Terre de Sophocle à Sri Aurobindo, traduction de Satprem par le phénomène. Il faut pourtant tenter de dire le phénomène le plus extraordinaire du monde. Sri Aurobindo y avait tout à fait renoncé et devant les questions saugrenues de ses disciples, il finissait par répondre le supramental, mais il s'expliquera de lui-même. Et c'est vrai, il est en train de s'expliquer partout sur la terre d'une manière qui ressemble un peu aux oracles de Delphes et qui vous poussez ici pour aller là, mais d'une manière assez fracassante ou déconcertante. En tout cas, si nous pouvions être un peu moins déconcertés, le phénomène serait peut-être plus harmonieux. On se sent très petit pour dire cela, et surtout très dépourvu de vocabulaire. Il faudrait une langue nouvelle. Que dirait une petite bête qui ouvre les yeux au monde comme ce petit phoque sur sa plage blanche? À travers tous les temps et tous les âges humains, il y a eu des êtres qui ont suffisamment senti le même remue-ménage insensé de cette vie et de cette peine, de ce bonheur toujours blessé, ces amours qui changent et se retournent ou s'évanouissent, cette vie qui s'use sans jamais trouver de paix, sa plénitude qui apaiserait tout. Ils ont cherché à sortir de tout cela. Bien des sages ont essayé, et leur expérience est assez semblable. D'abord, réduire tout ce chaos et ce fracas et ce tourbillon de la vie au silence, cette sorte de toboggan mental qui monte et descend et remonte pour se fracasser encore. Et tous ces oui et tous ces non et toutes ces vertus qui sont l'envers d'un péché, ces péchés qui cherchent leurs vertus, c'est sans fin. C'est sans solution et sans accord au sens musical. Alors, ils ont fait taire tout cela lentement, lentement. Et au sommet de ce silence, au bout de ce vide de tout, une pointe pure de leur être a émergé au-dessus de leur tête dans une étendue, une sorte de ciel, mais si paisible, si tranquille, sans une ride. Si l'on pouvait être heureux, on pouvait être plein là, comme au-dessus des mers, de la vie et de ses orages et de ses peines. On pouvait même sourire là, et c'était comme éternel et pour toujours et de toujours. Il y avait même une grande musique là, une étendue de musique comme si tous les univers chanter leurs notes, comme s'ils étaient l'accord de tout. Il y avait des illuminations là, tout était su sans mots, ou quelquefois coulé, comme une musique qui se revêtait de mots, comme une sagesse qui égrenait un sourire et disait « ce qui rayonne depuis tous les temps, ce qui est là par-delà les vies, par-delà les morts ». Bien des sages, d'aucune religion, bien des musiciens, d'aucune langue, et de toutes les langues ont senti cela, ou chanté cela. C'était leur source, c'était un ciel de beauté qui était vérité. C'est le ciel, oui, là, sur une pointe de leur être, comme l'extrémité du Kanchayunga et du Nanda Devi, si merveilleux au-dessus des plaines et des fracas. Mais le fracas reste en dessous, et la douleur des hommes pareille et le mensonge du monde pareil. C'est le ciel du mental humain délivré de ses contradictions et de ses mensonges. C'est la base de l'effort humain après ces millénaires de quêtes ou de vies déçues. Mais la vie n'est-elle pas toujours déçue? Sophocle avait bien vu cela et il continuait d'espérer pour la vie. Il continuait de vouloir pour les hommes. En cet heureux temps, il n'y avait pas de religion, mais des sages et des chantres. Or, il y avait d'autres sortes d'êtres, ceux que l'on peut appeler les êtres de feu, ou peut-être les matérialistes de l'esprit, mais nés avec une flamme incoercible, et qui ont contenu tant d'hommes dans une seule peau, tant de morts inconsolables ou cruelles, tant de vies avec une seule question. Et ils regardent, et tout est non. Les sommets du Nanda Devi humain, c'est oui, et c'est non quand même. Les étendues maritimes, balayées du grand vent, c'est oui, et c'est non quand même. Les sublimes musiques entendues, c'est oui à en pleurer, et c'est non quand même. C'est désespérant. C'est inacceptable, et pourtant, ça embrasse toute cette vie avec une seule question de feu. Pour toute cette vie, contre toute cette vie, et même ce contre-là, est encore comme un oui qui crie. On est là, comme un errant de la forêt ou du désert ou d'aucun lieu, parce que c'est non à tous les lieux, c'est non à tous les cieux. On est comme un vagabond de feu ou comme un lieu de feu en quête de je ne sais quoi. C'est même non à la mort et non au désespoir. Et pourtant, c'est complètement désespéré. Mais ça brûle, comme pour la vie même. Et le regard s'aiguise. Non, ce n'est pas le regard du petit phoque sur sa grande plage. Sur sa grande plage nue. C'est un regard de feu qui a vécu tout ça. Qui voudrait transpercer ce nom-là et transpercer tout cela qui chante ou qui pleure, comme il y avait quelque chose à arracher au fond de ce trou humain inacceptable et sublime. Et sublime. Alors, ce vieil être du bout de la pâle. Alors, ce vieil être du bout de la pâle, de la pile, qui est comme tous les hommes de la même pile, ou qui a éprouvé tant d'hommes dans sa propre peau, devient tel besoin criant qu'il est comme le besoin de tous ces millénaires empilés, un appel si profond qu'il est comme la poussée de cette vieille première semence nocturne enfouie là-dessous, enterrée, mais depuis longtemps vert, quelque chose qui serait comme sa vie, enfin, son soleil, enfin, son soleil physique là, dans ce corps nocturne enrobé de calcaire. Alors le phénomène se produit. Il ne se serait jamais produit si ce grand être de feu, nommé Sri Aurobindo, n'avait pas ouvert le passage, le grand passage. Mahaspata, disaient les rishis. C'est un phénomène si extraordinaire. Nous l'avons déjà dit, mais on ne se lasserait pas de le répéter, tant c'est étonnant. En fait, c'est comme si, dans toute cette histoire de l'évolution, un spécimen de l'espèce en cours assistait consciemment à sa propre transition et vivait le mécanisme ou le pouvoir par lequel toutes les espèces précédentes ont opéré leur propre transition. Et ce n'est plus le passage d'un certain milieu que nous connaissons à un autre milieu que nous connaissons, c'est un autre milieu. Ce n'est plus une pointe de l'être mental raffiné qui s'élève au-dessus des mers sauvages de la vie et s'étend enfin dans un ciel éthéré, apaisé, heureux et accordé à tout, si souriant, si large, divin, enfin, au milieu de toutes ces discordes du monde et créateur de toutes nos beautés fugitives. Alors, aujourd'hui, je termine ce chapitre qui s'appelle « Le phénomène » de la tragédie de la Terre de Sophocle à Sri Aurobindo, écrit par Satprem en français. C'est la victoire sur la matière. Alors au début, je vous ai parlé que Satprem écrit que, en fait, le supramental ressemble aux oracles de Delphes. Et je me permets de vous dire que je suis allée en Grèce, à Delphes, en 1977, quand j'étais à Paris. Alors, je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette lecture merveilleuse. Je remercie Priya, Ganga Lakshmi, House of Mother Agenda, Savitri Bhavan.
This is Auroville Radio, Voices from the City of Dome.